Les Grandes Gueules sur RMC avec Biofib. L'isolant en chanvre, idéal pour vos travaux de rénovation. Biofib, ça chanvre tout.
RMC, 9h midi. Les Grandes Gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les Grandes Gueules sur RMC, RMC Story, les Grandes Gueules avec aujourd'hui Bruno Poncet Cheminot, Barbara Lefebvre, qui est enseignante, et nous sommes avec l'ancien ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari.
Deux fois là. Ouais, Jean-Baptiste, faut pas lui mettre SNCF.
En fait, c'est deux vieilles connaissances, tous les deux, Jean-Baptiste et Bruno.
C'est pas si mal d'ailleurs.
Mais tu te rappelles, toi, première télé que je fais, moi, en 2018, juste après le rapport Spinetta, je me retrouve en face de quelqu'un que j'avais jamais vu, c'était lui. Et c'était Jean-Baptiste, et on me dit, député de majorité, machin et tout. Et voilà, et après, t'es devenu rapporteur de la loi, et on s'est affronté régulièrement. Il a fait une loi de merde, mais ça, bon, Jean-Baptiste, il est pour rien. Hein. Il a juste porté, c'est pas lui qui l'a écrite, mais bon.
Merde. Moi, j'ai bien aimé rencontrer les syndicats, et moi j'ai beaucoup appris dans les auditions parlementaires, et notamment avec Sud et les autres. Et je trouvais intéressant parce qu'évidemment il y a le prisme politique, qu'est-ce que tu portes pendant les campagnes, etc. Et puis il y a les syndicats qui quand même t'apprennent le métier au-delà de la partie un peu idéologique du truc. Et j'avais bien aimé le rapport qu'on avait eu avec Bruno, et je le trouvais assez efficace et assez sympa. Donc
c'est beau,
ça marche bien.
Et il se retrouve aujourd'hui.
Le dialogue social, ça peut fonctionner en France.
Il se retrouve aujourd'hui dans.
Je suis devenu marxiste du coup.
Voilà. Enfin, moi, je suis pas marxiste.
Ça a mal tourné.
Et Bruno Poncet, maintenant, il est à Renaissance.
Aïe, je suis en train de me faire un AVC là. Arrêtez.
Aucune parenté avec Christian Ponce.
Non.
C'est pas clair. Énormément de jeunes qui viennent m'appeler. Qui est Christian Poncet?
Oui, c'est ça. Oui.
Les amis, on a les vacances à vous faire gagner, ça c'est important, le jeu bel en bras, une semaine à la montagne, à la campagne ou à la mer, vos prochaines vacances vous les gagnez grâce à RMC et au GG, vous m'envoyez vacances par SMS au 732-16, alors je corrige tout de suite le tir parce que tout à l'heure j'ai dit, et j'ai reçu des SMS, j'ai dit Avoriaz.
Ah bah oui,
c'est
Avoria.
Oui, c'est ça, je comprends.
Et Edouard G, journaliste d'RMC dans la région Rhône-Alpes, m'a tout de suite envoyé un sudiste, niçois, etc.
On ne dit jamais, on ne prononce jamais le Z en Haute-Savoie.
Et à Auxerre ou Auxerre?
Et Metz ou Metz?
À Metz.
Metz.
Et Auxerre.
Auxerre.
Auxerre. Et Auxerre.
Ouais. Et Avoria.
Pour en Bresse.
Oui, nous, Vierzon, on prononce bien le Z, hein. Je vous dis ça tout de suite, hein. Sinon ça ferait moche.
C'est-à-dire personne ne prononce Vierzon.
Vous êtes méprisant entre en.
Et Châteauroux
ou Châteauroux, hein.
Il n'y a que Louis Gerbier qui est de là-bas qui dit Châteauroux quand même.
Il n'y a que Louis Gerbier qui est de là-bas déjà tout court.
il a réussi à quitter Châteauroux.
Ouais, allez, ça, vous envoyez vacances par SMS au 732-16. Vous jouez, vous gagnez, vous partez où vous voulez et avec qui vous voulez, en famille ou entre amis. La politique, la dissolution, c'est le moment d'en parler.
RMC, les Grandes Gueules.
Alors c'est vrai qu'on a les nouvelles mobilisations qui se préparent, mais on a surtout aussi ce qui se passe à l'Assemblée nationale où on fait des calculs arithmétiques fins parce que ça peut passer ric-rac ou alors avec le 49-3.
Oui, et la dissolution, c'est une pression qui est exercée sur les députés depuis le début de cette mandature puisqu'il n'y a pas de majorité relative et à tout moment, Emmanuel Macron peut décider de dissoudre l'Assemblée nationale. Il pourrait d'ailleurs dire aux députés « si vous ne votez pas ma réforme, on repasse par la case élections et pas sûr que ces députés de la majorité soient tous réélus. Alors à la dissolution, ça peut profiter à qui? Là aussi, c'est faut être quand même très prudent. Est-ce qu'on est sûr que ça profiterait à Marine Le Pen? Est-ce qu'elle pourrait imposer une cohabitation à Emmanuel Macron? Alors il y a des scénarios qui dessinent un scénario de cohabitation avec Marine Le Pen. Comme ça, Marine Le Pen se cramerait à Matignon et en 2027, elle ne pourrait pas se représenter. Alors c'est vraiment des scénarios de politique fiction. D'autres estiment que tout le monde a à perdre avec la dissolution, puisque les Français, de toute façon, ne votent plus et que c'est pas sûr qu'ils auraient envie de revoter ou de se mobiliser pour un vote s'il avait lieu dans les prochains mois. Bruno Poncet, que t'en penses quoi, la dissolution? Ça serait la solution, finalement? Est-ce qu'on est sûr, d'ailleurs, qu'on aurait une majorité dans la foulée?
Je vais commencer mon propos en ouvrant un peu le débat, ce qui se fait pas du côté du gouvernement. Dans un monde où aujourd'hui, les gens, tu vois, la fin du mois commence des fois le 3 ou le 4. Dans un monde qui s'embrase, Israël, dans un monde où on tue les femmes et les enfants comme en Iran, dans un monde, tu vois, où la guerre est à nos portes, mine de rien, eux, ils parlent de dissolution et de politique politicienne. Donc déjà, tu vois, tu te rends compte un peu le niveau de ce gouvernement. Et deuxièmement, enfin, à un moment donné, les gens, enfin, moi, de penser.
C'est la démocratie, quand même.
Ouais, enfin, la démocratie. Tu vois, quand ils parlent d'élection mi-mandat, nous, on a connu
alors,
ça.
Alors, enfin, si ça intéresse la démocratie, moi, j'ai une proposition, ça s'appelle le référendum.
Ouais, ouais, déjà, pour commencer, ce serait déjà pas mal.
Mais ça, vous savez pas, que
avant de dissoudre, déjà qu'ils essaient le référendum.
Mais hier, Alain, t'as dit un truc dans l'émission que j'ai regardé, t'as dit que les députés qui ont été les députés qui ont été élus ce week-end, ils ont été élus avec 30% des voix. Ça veut dire que les gens se foutent de tout ça. Réellement, parce que les gens, ils ont d'autres priorités, ils n'ont rien à foutre d'aller voter.
Moi, je peux vous dire que les Français se mobiliseraient. Vous verriez le taux de participation au référendum. Ah là, il y aurait du monde.
Mais pour dire,
je sais qu'en 2005, on était trop. Je le dis con, apparemment, pour comprendre la Constitution. Oui. Ils nous disaient tous, mais vous êtes trop bêtes pour comprendre. Ah, ben, on a voté non, voilà, Sarkozy et Hollande, main dans la main. Là, on va être trop bêtes aussi pour comprendre la réforme des retraites. La question de la dissolution, c'est dans l'intérêt de qui? Parce qu'il y a eu le dernier sondage prospectif de dissolution, c'était novembre 2022, l'IFOP-JDD. Et ce qu'il révélait, c'était que le seul groupe, le seul parti qui progresserait, ce serait le RN. Or, je crois... qu'on apprécie ou pas son projet. Mais enfin, Emmanuel Macron nous a dit, main sur le cœur, que ce soit en 2017 ou en 2022, « Ah, moi, je suis là pour faire rempart au Rassemblement national et moi, jamais, je ne ferai monter le Rassemblement national. » Alors donc, si son objectif, c'est pas de faire monter le Rassemblement national, vaut mieux pas qu'il fasse une dissolution de l'Assemblée.
Moi, je crois que
parce
c'est
que s'ils la font, le RN va continuer à monter et là, le RN sera vraiment le premier groupe, même s'il l'est aujourd'hui. Hein. En réalité, la NUPES, c'est une assemblée de partis, donc... La NUPES est le premier groupe d'opposition, mais la réalité, c'est que c'est le RN. Parce que tout seul, il est plus important qu'LFI.
Ah, mais les élections, là, viennent de prouver le contraire.
Qui se méfie? Parce que, en plus, dans le sondage de novembre 2022, Renaissance était stable avec 27% au lieu de 26%. Donc, ils étaient stables. Ouais. Mais là, à mon avis, Renaissance va se prendre un gros coup dans l'aile s'il faisait la dissolution au printemps 2023.
Les élections partielles de ce week-end, là, ça donne exactement la stabilité pour Renaissance. Là, moi, je pense que.
Oui, les partielles n'ont pas démontré ce que tu es en train de dire.
Les partielles, il y a deux partielles qui se battent en duel.
La question pour Macron, c'est
pas une campagne législative.
La question pour Macron, à mon avis, c'est pas à qui profite le crime de la dissolution. À mon avis, il y a deux schémas. Il y a une dissolution forcée, en quelque sorte, s'il y a une motion de censure qui passe dans la réforme des retraites, et c'est pas impossible.
Ou un référendum.
Si ça s'en manche mal, si effectivement la pression de la rue est assez forte, comme l'espère Bruno, ça c'est pas impossible, mais c'est la dissolution subie. Et effectivement, les menaces, pour le coup, Olivier, il les a déjà proférées. Il a dit, et c'est comme ça qu'il met la pression, notamment sur les élus républicains, qui seraient en fait les grands perdants. Au profit du RN d'élection partielle. Après, il y a la dissolution qu'il aurait choisie. À mon avis, il a besoin de stabilité jusqu'en 2024 parce qu'il y a les JO, il y a les élections européennes et puis ça ressemblerait quand même 2024 à une forme de mi-mandat. Mais à ce moment-là, il peut se poser la question de dissoudre. Ça aurait, à mon avis, deux atouts. Le premier atout, c'est remettre du temps de respiration démocratique parce que ce faisant, il se créerait un peu comme aux US, aux États-Unis d'Amérique,
des
élections intermédiaires. Donc, en gros, il resynchronise, enfin, il désynchronise.
Il l'avait d'ailleurs théorisé dans une interview.
Il l'avait déjà dit dans l'entre-deux-tours.
Il désynchroniserait l'élection présidentielle et les élections législatives. Donc, en gros, on aurait tous les 5 ans des présidentielles et puis toutes les 2 ans et demi, 3 ans des élections législatives. Donc, ça donnerait un temps démocratique. Et puis, et je pense que ça lui permettrait aussi de faire un gouvernement, non pas de faire venir Marine Le Pen, mais de tenter de faire un grand gouvernement de coalition à l'allemande. Je pense qu'il a envie de faire.
Et avec qui, mon avis.
Mais il pouvait le faire. Mais pouvait le faire dès qu'il était.
Pourquoi il le ferait? Alors, t'inquiète pas, tu auras des candidats à droite ou à gauche. Et d'ailleurs, regarde les élections, pas les élections, mais les déclarations de Cazeneuve récemment, qui sont beaucoup plus souples vis-à-vis de Macron. Donc, il y aurait des candidats pour faire un gouvernement de coalition. Et ça aurait l'avantage, en plus, de remettre un peu d'incertitude sur l'élection présidentielle à venir et les successeurs possibles.
Tu m'excuses. En Allemagne, les coalitions, elles se font avec des vrais chefs de parti, pas avec Cazeneuve qui appelle au Parti Socialiste et qui se mêle de rien, pas avec des LR qui sont au fin fond des oubliettes.
Non,
mais tu fais des vraies coalitions en Allemagne, c'est des vraies coalitions avec un vrai programme commun.
Ils ont déjà topé avec Ciotti sur la réforme des retraites.
Ils vont le mettre.
Mais en France, la monarchie présidentielle ne peut pas permettre une quelconque coalition à l'allemande.
On vit des choses qu'on n'avait jamais vécues. Pardon, vous avez toujours dit qu'un président élu obtenait forcément une majorité absolue derrière. C'était la règle. On voit bien que cette règle a été démentie. On nous a expliqué qu'un président ne pouvait pas être élu sauf s'il y avait la case cohabitation. Macron a démontré qu'on pouvait être élu sans cohabitation. Donc moi, je pense que là, on est dans une situation complètement nouvelle avec des taux d'abstention. En fait, ce qui change la donne, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne votent plus. Donc quand tu as des taux d'abstention aussi forts, eh bien, n'importe qui, entre guillemets, peut passer. Mais pardon, on regarde ce qui s'est passé au municipal.
C'est donc pour
Paris,
ça,
par exemple, aujourd'hui,
que si ce gouvernement
Hidalgo soit réélu, et pourtant elle a été réélue.
Eh ben voilà, c'est pourquoi, quand on veut vraiment entendre la voix du peuple, on utilise l'outil du référendum, parce que si Emmanuel Macron veut à la fois faire passer sa réforme, enfin ça il aura la réponse tout de suite, et tester sa popularité, il aura aussi la réponse tout de suite, qu'il fasse un référendum, mais là au moins, on préfère faire des élections biaisées, avec des 20% de participation pour se faire élire et ensuite venir dire, mais vous avez voté pour moi en toute connaissance de cause, bah bien sûr, il y avait trois Pékin qui votaient.
Mais vous ne croyez pas qu'il est en train de regarder du côté de Mitterrand, surtout? Tu sais que Mitterrand, il avait fait monter derrière Chirac, et derrière il avait tué Chirac, il était repassé. Tu crois pas qu'il est Macron, parce que Macron c'est un vieux, peut-être qu'il est en train de regarder un peu en arrière en disant mais l'autre pour plomber peut-être le parti qui te colle un peu aux fesses, bah tu le fais monter et derrière tu le tapes et tu le fournis.
Qui colle aux fesses?
Moi je suis d'accord avec le RN. Moi je pense que je
fais monter Bardella. Il n'a pas utilisé tous les outils de la Constitution. Il manque la dissolution, le référendum. Les référendums, il n'en fera jamais sur la réforme des retraites.
Il pourra en faire
sur les institutions, puisqu'ils vont relancer une grande
sur la fin de vie.
Et sur la fin de vie ou sur la 6ème République.
Peut-être la fin de vie des institutions pour mélanger les deux.
La fin de vie de son fonctionnement
palliatif de la 5ème République.
Excusez-moi pour le coup. C'est vraiment une honte. C'est voilà. Une honte de faire un référendum sur des sujets qui sont des sujets, excusez-moi, mineurs et qui ne sont pas la priorité.
La fin de vie, c'est pas mineur. Hein.
C'est pas prioritaire au regard. Non, la dépendance, c'est pas la fin de vie, excuse-moi. Hein. La question de la dépendance.
Mais le suicide assisté.
La question de la dépendance et le suicide assisté, c'est pas la même chose. L'euthanasie et la dépendance.
Ça règle le problème
de la fin de vie.
Alors attendez, je voudrais qu'on passe par le Bas-Rhin, retrouver Samuel.
Bonjour Samuel. Donc le référendum, c'est sur les retraites.
Bonjour Samuel.
Bonjour Barbara, une petite parenthèse pour Barbara. Je voudrais juste rappeler que son ami Ursula s'est augmenté de 7% depuis le début janvier.
C'est un petit truc. Ma copine Ursula. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu celle-là.
Alors notre ami radiologue, un fidèle des GG, Samuel, qu'est-ce que vous en pensez de la dissolution du scénario?
Il va pas la faire, vous pensez bien. Je veux dire, si demain vous avez plus de 70%, voire même un peu plus, de gens qui sont mécontents de sa politique, vous pensez bien que demain, il va pas faire se tirer une balle dans le pied et après dire « Ah, mais vous comprenez, pendant 4 ans, 3 ans, machin, j'ai eu des gens qui étaient contre moi et qui ne pouvaient rien faire. » Donc forcément, il va garder ces gens-là, ces députés, même en gardant des gens qui ne sont pas bien, comme M. Pellerin, par exemple, qui est coquillonnomane et qu'on gardera quand même. C'est pas grave. Je veux dire, tous ces gens-là, ils restent entre eux. Ils vont voter entre eux. Regardez comme ils s'en foutent des gens. Il y a 2 millions de personnes dans les rues. C'est pas grave.
Ouais, bah, attendez, il y a la légitimité de la rue, la contestation sociale, mais il y a aussi des gens qui ont été élus. Et les gens qui ont été élus actuellement, ils ont été élus pour un mandat de 5 ans. Moi, je veux bien qu'on revote tous les ans parce que vous êtes pas content, Samuel. Mais les gens ont voté. Ils ont choisi Macron président. Ils peuvent le regretter maintenant, hein, tant pis pour eux, notamment les gens les gens de gauche sont contre la mobilisation, contre la réforme des retraites, c'est les mêmes qui ont voté Macron. Bon, alors c'est.
Il faut faire barrage
fameux barrage au fascisme.
Allez-y, Samuel.
Le fameux barrage. Mais Bruno Poussin, il a voté Macron.
Allez-y, Samuel.
Surtout pas,
monsieur Truchot, je vous rappelle que dans ma région, le président de la région a été élu avec 10% des inscrits.
Oui, monsieur Rottner, tout à fait.
Ils s'en foutent, ils s'en foutent des pourcentages. Ils s'en foutent des pourcentages. Je veux dire,
je suis d'accord, Samuel, mais les gens sont élus. Alors, on invente un autre système.
Mais parce que.
Samuel, merci. Oui. On va continuer la discussion.
Ça a été proposé, le seuil d'éligibilité.
Oui.
À partir d'un certain seuil, ton élection n'est pas valable. Je suis désolé.
On va continuer la discussion dans un instant, puis on passera du côté de Toulouse, retrouver Jean-Wilfried Forquès pour BFM TV, voir où en est la mobilisation. À tout de suite avec les grandes gueules.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec Jean-Baptiste Djebari, Bruno Poncet et nous sommes avec Barbara Lefebvre. On va passer par Toulouse, retrouver Jean-Wilfried Forquès en direct sur RMC, RMC Story. Jean-Wilfried, ça y est, le cortège toulousain a commencé à bouger.
Oui, c'est ça. Nous sommes au cœur du dispositif ici dans ce cortège. Beaucoup de monde, impossible à chiffrer pour l'instant, mais en tout cas des milliers de personnes devant et derrière ici. Nous sommes avec Cécilia. Bonjour Cécilia. Vous êtes fonctionnaire. Pourquoi vous êtes dans le cortège ?
Alors, je suis dans le cortège donc pour défendre les retraites. Ce que je veux dire, c'est que les députés, les ministres et les sénateurs, une fois qu'ils ont eu un mandat, ils ont une retraite à vie. Voilà. Et nous, on nous demande de travailler plus tard, plus longtemps et plus. Voilà.
Donc vous êtes dans la rue, vous étiez dans la rue la dernière fois ?
Oui, jeudi dernier, j'étais dans la rue aussi.
Alors c'est pas le cas d'Eliane qui, elle, est retraitée. Eliane, vous êtes ici pour la première fois. Pourquoi vous êtes dans le cortège aujourd'hui ?
Parce que je suis très mécontente vis-à-vis que je suis retraitée. J'ai 70 ans, obligée de travailler. Je suis épuisée. J'ai une retraite de 800 euros et une invalidité de 200 euros. Voilà, et je conteste tout ce qui se passe actuellement parce qu'on ne peut pas s'en sortir, c'est pas possible. Et j'estime que des personnes à 70 ans sont fichues pour continuer à avancer. Voilà.
Vous avez espoir que ce projet de réforme ne passe pas ?
J'ai espoir qu'il ne passe pas. Je voudrais que les choses s'arrangent. Je crois que je me suis mal exprimée, excusez-moi. J'espère que Macron va baisser sa garde parce que là, ça, il nous pèse sur le système. À part s'occuper de la guerre de l'Ukraine, c'est très important. Envoyer des avions, il y a de l'argent. Mais pour aider les retraités, rien.
Voilà pour l'esprit, l'ambiance ici dans ce cortège, Olivier, Alain, ici à Toulouse, où plusieurs milliers de personnes sont rassemblées depuis 10 heures.
Ils ont quitté CGT ou pas
les cortèges à travers la France, on le vit en direct sur RMC.
On dit bien n'importe quoi.
Pourquoi on dit n'importe quoi ?
Cécilia là, qui disait les députés, les ministres et les sénateurs ont un régime de retraite à vie. Enfin, c'est absolument faux, quoi.
C'est-à-dire
bah, quand t'es ministre, même sur Pôle emploi ministre, t'es payé 3 mois et après t'es plus.
Par exemple, toi, t'as été député.
Et moi, j'étais député 5 ans. Il y a plus.
Enfin, les régimes. Tu toucheras une retraite de parlementaire.
Mais jamais. Alors, tu touches le droit commun. Mais exactement le droit commun. Avant, il y avait des retraites. Et effectivement, quand tu faisais 4 mandats de député, ce qui arrivait à beaucoup de députés, t'avais une retraite à vie et c'était beaucoup plus que la moyenne. Aujourd'hui, le régime du droit commun. Le régime des députés, c'est le régime du droit commun.
C'est
fait en 2017.
Les sénateurs formés pour les députés, moins pour les sénateurs.
Les sénateurs, ils ont quand même un truc avantageux. Les sénateurs, faut pas oublier. Hein.
Ouais, alors, eux, ils n'ont pas complètement convergé avec le droit commun. En tout cas, les députés, et c'est nous qui l'avons fait en 2017, pour le coup, sont strictement.
Il faut le rappeler.
C'est vrai que vous saviez que vous faisiez qu'un mandat, parce que vous n'étiez pas bon, donc ils savaient que vous allez faire jeter après.
Ah oui. Bon, après, on fait du syndicalisme, du coup.
Exactement.
C'est la pente.
Ah, mais nous, on perd de l'argent.
C'est fini.
Ce que révèle ce que disait Cécilia, etc., c'est ce sentiment profond d'inégalité. Même si on peut dire des erreurs, des approximations. Non, mais ça révèle. Vraiment. Ça révèle un profond sentiment d'inégalité au sein de la population.
Oui,
privilèges.
Moi, je veux bien tout entendre et je comprends pourquoi les gens sont dans la rue, mais on peut pas non plus dire n'importe quoi et sombrer dans le populisme anti-élu à chaque instant. Les élus ici même, on les taille tous les jours dans les grandes gueules et on s'en prive pas. Et je suis pas le dernier. Mais à un moment donné, on peut pas dire tout et n'importe quoi. Effectivement, les députés ont réformé eux-mêmes leur régime, il faut le dire. Voilà, il y a d'autres choses à dénoncer.
Hein. Mais Olivier, si tu avais tendu le micro au sans culotte en 1792 ou 90 à la prise des Tuileries, tu crois qu'il t'aurait développé des théories à la Montesquieu.
C'est notre responsabilité de pas laisser dire n'importe quoi.
Derrière, il y a des populistes.
Non, mais ça vous empêche pas d'inviter des gens qui disent que nous, on a encore la prime charbon, que quand on est pas en grève. Donc, à un moment donné, tu me fais rigoler.
Non, on invite simplement des gens qui disent que vous partez.
Pardon,
mais vous partez plutôt que les autres à la retraite et avec la fameuse clause du grand-père.
Oui, puis on a la prime charbon.
Le régime social est maintenu.
C'est une vérité. Non, mais tout le monde ne sait pas que c'est fini. Tu vois, tu as des débats où ça repart tout le temps.
Vous avez la prime. Enfin, arrête. Olivier, tu vas sur un terrain glissant.
Non, mais arrête, Olivier, t'arrêtes pas de me dire à chaque fois t'es payé pendant les grèves. Bah non, je suis pas payé pendant les grèves, j'ai perdu mon copain, puis je perds moi. Hein. Je veux dire, après, ma femme, elle me tabasse parce que j'ai pas.
Et de dire, oui, c'est toujours les fonctionnaires.
Il y a un numéro vert, par
exemple. Quand vous dites les fonctionnaires, ils peuvent faire grève, les fonctionnaires, ils font grève, ils n'ont pas de salaire non plus. Donc, c'est pas. Est-ce qu'ils peuvent pas faire plus grève que les gens du privé? On n'est pas payé comme les gens du privé. Donc, de tous côtés, il y a des caricatures.
On ne peut pas dire que les cheminots ont le même statut que les salariés du privé. Voilà,
certes, mais je veux dire
qu'on n'a pas les mêmes salaires.
Je veux dire que le
monde,
vous ne pouvez pas ignorer le fond de ce que pensent les gens, même s'ils n'ont pas forcément.
Vous avez un mépris de classe.
Il y a un fond profond de sentiment d'inégalité.
C'est une connerie. C'est pas une question de classe. Tu rectifies, c'est tout.
Ça, c'est au côté 16e. Donc il faut quelqu'un de la campagne. Tu t'allumes.
Ça t'arrange qu'elle pense ça en vérité. C'est ça qui est pas normal. C'est que le mépris de classe, justement, c'est prendre ces gens pour des cons. Alors que qu'elle conteste la réforme des retraites, elle peut tout à fait la contester sur ce que tu vous racontez avec des arguments rationnels, avec des faits, des
objectifs. Mais
ce qu'elle raconte, c'est n'importe quoi.
Oui, mais à quel moment elle a accès à l'info? Peut-être qu'elle écoutait sur CNews, ils ont dit une connerie comme ça et derrière elle enquillait.
Ah non, laisse tomber, sur CNews, ils sont à mort pour la réforme et ils sont sur la ligne Zemmour. Si on pouvait travailler jusqu'à 75 et crever au travail, on le ferait.
Bah, c'est vrai qu'en même temps, ils sont tous vus autour de la table.
Ah bah, et puis eux, ils sont pas prêts à prendre la retraite, excuse-moi. Un Bilger, putain, il est là jusqu'à 90.
Marc, bonjour Marc. Marc du Finistère, consultant indépendant BTP, un fidèle des grandes gueules, vous aussi Marc. Est-ce que vous pensez que la dissolution, ça peut être la solution?
Ben, comme je disais à votre collègue, là, je suis partagé par rapport à la dissolution. La dissolution, pour quoi faire? Pour quel projet? Aujourd'hui, on ne sait pas trop où est le... On ne sait pas où ils sont, les macronistes. Enfin, moi, je... franchement, moi, j'aimerais plutôt qu'ils partent. Franchement, j'aimerais vraiment qu'ils partent.
Et il a été réélu il y a un an. Enfin, il y a moins d'un an.
Ah, Olivier. On sait comment s'est passée la campagne présidentielle.
Autres avaient qu'à être meilleurs. Enfin, à un moment donné, moi, je veux bien, mais les conditions de cette campagne, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas eu de campagne, il y a eu la guerre en Ukraine. Oui, ça a sans doute favorisé Macron. Mais c'était aux autres d'être bon. Pardon, Valérie Pécresse n'a pas été bonne, Anne Hidalgo a été nulle. Et Marine Le Pen, on a vu aussi les limites. Donc, à un moment donné.
Parce qu'on ne les a pas vues, les limites de Macron.
Laissez parler Marc.
Olivier, je suis là. Ok, d'accord, un point. Ok, 1-0. Pas de souci.
Maintenant, je vais dire ça, il va se gosser.
Allez-y, Marc.
Mais dans ce cas-là, j'ai préféré à la rigueur que les macronistes disent voilà, soit je suis de gauche, soit je suis de droite. Voilà, ça au moins, ça serait clair. Parce que ce, en même temps, j'en ai, enfin moi, perso.
Mais Marc, ils peuvent être ni de gauche.
Mais regardez. Comme je disais à votre standardiste, Bruno Le Maire, là, il y a 2-3 jours, là, il a dit, ouais, il faut serrer des boulons, quoi. Et ben, il va rétablir la conduite. Ah, mais attendez, mais vous avez vu combien ils ont dépensé?
Oui.
Ah, mais attendez,
vrai.
Mais c'est, mais moi qui
c'est le type qui dépense, qui tout d'un coup dit, il faut faire
moi
des économies.
Moi, je suis sur un quadrat, mais je suis sûr qu'on n'arrivera jamais à rembourser toute cette dette, quoi.
Ah, non.
Ensuite, Darmanin, on ne sait pas où ils sont, quoi. On ne sait pas où ils sont. Donc, moi, j'aimerais, à la rigueur.
Vous en avez marre du en même temps.
Ah oui, j'en ai marre.
Vous êtes de quelle couleur politique, Marc? Vous avez votre.
Bah, moi, je suis LR, quoi. Je suis LR. Oui, mais franchement, j'en ai ras-le-bol. En même temps, ça me sopare.
Mais pardon, alors moi aussi je regarde les LR, ce qu'ils disent, parce que les LR maintenant ils sont plus à gauche que les macronistes. C'est eux-mêmes qui disent on a obtenu des avancées sociales.
Je ne peux pas être contre la retraite à 65 ans, puisque j'ai fait la campagne des LR présidentielles. Et ce que je voudrais effectivement, c'est qu'on tienne compte de la pénibilité du travail. Moi, j'ai pas forcément de problème au travail. Enfin, je suis en bonne santé pour l'instant, et je pense qu'effectivement, je peux aller à 65, voire peut-être même plus. Mais je sais que dans le secteur où je suis, il y a des gens effectivement qui sont fatigués.
Enfin, BTP,
ça se voit physiquement, ça se voit. Donc, ils ne pourront pas aller jusqu'à 65 ans.
Donc, demandez à ceux qui travaillent déjà dur de travailler plus, c'est une honte. Et là-dessus, c'est vrai que Pradier et certains LR ont raison. Et d'ailleurs, au début, Ciotti, il disait trop rien, mais là, il a vu ce qui montait chez LR en disant on ne peut pas aller vers quelque chose d'aussi injuste.
Marc, ça veut dire quoi être LR? Parce que entre la ligne Pradier, qui effectivement devient quasiment plus gauchiste que Bruno Poncet, et la ligne Ciotti, qui est
Pradier gauchiste, un macroniste qui va faire la leçon. Mais pas un macroniste qui va me faire la leçon.
Moi, je suis sorti.
Il vous pose une question.
Je suis un repenti, moi, Marc.
Ouais, il est sans étiquette.
Okay, d'accord.
Non, mais c'est vrai. Du coup, vous êtes dans quel camp, quelle ligne?
Non, moi, je serais plutôt la ligne Retailleau-Pécresse.
La ligne gagnante.
Non, mais ce que j'entends chez Marc, et il faut écouter ce qu'il dit. Il a marre du en même temps. Peut-être que, effectivement, après Macron, ça va être le retour du clivage. On a peut-être besoin de plus de clivage. Le problème, c'est qu'on avait un mauvais clivage. Parce qu'on avait des socialistes
La politique s'est clivée. Georges Pompidou, enfin j'étais pas né, mais je sais pas, il a dit effectivement gouverner c'est contraindre. On peut pas plaire à tout le monde. On peut pas faire à tout.
Oui, sauf que Marc,
plaire à tout le monde, c'est plaire à personne.
Marc, on avait des mauvais clivages, c'est-à-dire qu'on avait des gens de droite qui pensaient pas la même chose, mais qui étaient ensemble, des gens de gauche pareil qui étaient ensemble dans le même parti, mais qui étaient très très différents. Certains
droite,
étaient plus libéraux, quasiment marxistes.
Vous savez, les gens de droite, ils sont.
Non, mais il faut refaire du clivage, mais du clivage qui a un sens. Quand j'entre, par exemple, sur l'Europe, il y a un vrai clivage sur effectivement l'économie. Il y a ceux qui veulent une économie administrée, d'autres qui sont pour la liberté d'entreprendre, etc. Et c'est vrai que le fourre-tout du en même temps est un peu compliqué. Quand on voit Olivier Dussopt, qui était quand même socialiste, et qui se retrouve maintenant à défendre cette réforme des retraites,
je pense que ça
pourrait
aller dans le sens de Marc.
Quand on ressort des vidéos là où effectivement
il dit tout et son contraire.
Mais ça, c'est parce que le logiciel, enfin, je pense que le monde pour le coup a vraiment changé depuis 2017 et que le logiciel de 2017 il est évidemment aujourd'hui plus à jour.
C'était pas non plus le Moyen-Âge 2017,
non,
il y a 5 ans.
Mais globalement,
tout a changé.
Non, mais globalement, t'avais un monde dans lequel la mondialisation se déroulait pas trop mal, les énergies étaient pas chères, aujourd'hui les énergies sont chères. On se souciait que des consommateurs. Aujourd'hui, on s'aperçoit quand même que les producteurs, ça compte. On voulait pas relocaliser l'industrie. Maintenant, on veut tous relocaliser l'industrie.
Non, attends, alors.
Bref.
Attends, ce monde-là.
Et l'Ukraine a exacerbé encore plus tout ça. Donc, je suis d'accord que en même temps, si tu prends l'exemple de l'énergie, par exemple, ou de l'Europe, c'est plus difficile aujourd'hui de saupoudrer un peu tout.
Ça marche
moins bien,
en même temps.
Ça marche moins bien. Donc, on a besoin, effectivement, de se dire, on a moins d'argent.
De faire des vrais choix,
d'y aller à fond, de dire, on veut mener où le pays en 2040, 2050, et en fonction de ça, on investit là où on pense que c'est le plus efficace. C'est sûr que ça, c'est nécessaire.
C'est depuis le début qu'Emmanuel Macron,
ne peut pas fonctionner. Ça du tout non plus.
Quand tu as un président qui, au moment de ses vœux cette année-là, vient te dire, il y a des crises qui nous sont tombées dessus, qu'on pouvait pas prévoir, il nous dit la crise écologique. Non mais excuse-moi, ça va faire. Mais c'est 1970 les premiers rapports qui disent qu'on va avoir un vrai problème avec les énergies fossiles, etc.
Donc
après, bien sûr, évidemment les écolos, machin,
on les écoutait pas.
Mais je suis désolée, il y a même encore dix ans, même Hollande, il avait mis un peu d'écologie dans son.
Ils ont dit des choses qui sont aujourd'hui fausses.
Sur le nucléaire, ils ont dit n'importe quoi depuis 20 ans.
Ils étaient anti-nucléaires.
C'est pas ça. Là, je suis juste. Je voudrais juste, si tu peux.
Je pense que j'ai pas beaucoup parlé
aujourd'hui, donc si je pouvais juste terminer une phrase. De dire simplement que Emmanuel Macron, il y a un certain nombre d'échéances qui sont des échéances qu'on connaît depuis très longtemps. La désindustrialisation, j'ai découvert après le Covid, on fait plus de médicaments en France. La question écologique, j'ai découvert la crise écologique. Le grand âge, j'ai découvert. Enfin, il ne cesse de découvrir des trucs. On dirait qu'il a attendu d'avoir son stage de 2017 pour découvrir.
Il n'a jamais été élu.
Arrêtez de se foutre.
Ça marche.
Merci Marc d'avoir aimé dans le GG. Alors la question,
il n'y a pas élu.
Non mais la vraie vie,
aussi sa, peut-être aussi sa vie perso et le fait qu'il vit dans une autre planète.
Je suis d'accord avec toi.
La planète du 8e arrondissement de Paris.
On a posé la question. Je remercie Marc d'avoir été avec nous. Dissolution, la solution.
C'est la Providence d'Amiens.
Qu'est-ce que vous nous dites? Dissolution, la solution. Oui, 67-33.
Que la Macronie comprenne que c'est oui pour dégager la Macronie, à mon avis. Si je peux me permettre.
Allez, dans un instant, on y faisait allusion. On va revenir dans les indiscrets GG avec le service politique d'RMC sur l'affaire Pellerin, ce député Renaissance qui a reconnu avoir consommé de la cocaïne.
RMC, 9h30, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Barbara Lefebvre est avec nous, Bruno Poncé, nous sommes avec Jean-Baptiste Djebari. Il est 11h20, c'est l'heure des indiscrets GG.
RMC, les grandes gueules.
Les indiscrets.
Avec Jérémy Trottin du service politique d'RMC. Bonjour Jérémy.
Bonjour les GG.
On va s'intéresser ce matin au cas d'Emmanuel Pellerin. C'est un député Renaissance. Il a reconnu avoir consommé de la cocaïne et ça embarrasse la majorité.
Oui, Emmanuel Pellerin, 52 ans, avocat de formation, sur le papier, le profil idéal du député des Hauts-de-Seine. Mais voilà, ce novice en politique, élu pour la première fois l'an dernier, est au cœur d'un scandale. Interrogé par Mediapart, il a récemment reconnu avoir consommé de la cocaïne avant d'être élu et jusqu'en juillet dernier, au début de son mandat. Stupeur dans les rangs de la majorité. C'est un naufrage, explique une connaissance, mais c'est surtout un énorme problème politique à régler.
Alors, qu'est-ce qu'a décidé le parti d'Emmanuel Macron?
Alors, c'est là que les choses deviennent intéressantes, car la position du parti a évolué. Première réunion hier à 18h, Emmanuel Pellerin est convoqué à l'Assemblée devant les députés. Il a tout raconté, rien éludé, il a fait toute la transparence sur sa consommation passée, sur sa vie personnelle plutôt chaotique, me dit un parlementaire. Lozère. Emmanuel Pellerin promet même de présenter les résultats de tests urinaires et capillaires pour prouver sa bonne foi. Une mise en retrait est alors décidée à l'unanimité, mais l'élu peut encore rester affilié à Renaissance. On n'est pas la brigade des mœurs, expliquait-on en interne. Mais voilà, deuxième réunion, plus tard dans la soirée, la direction du parti, cette fois, décide d'aller au-delà de celle des parlementaires. La commission des conflits est convoquée en vue d'une exclusion, cette fois définitive. Il fallait être ferme et cohérent avec nos valeurs, justifiait-on. Les députés apprécieront.
Bah alors là, attendez, on finit, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de dangereux d'engrenage à ce moment-là ?
Et c'est bien tout le débat. Alain, un cadre de la majorité, me disait hier, une fois que tu mets le doigt là-dedans, ça peut aller loin. On fera quoi avec celui qui a fumé un joint ou celui à qui on a suspendu son permis pour excès de vitesse ? Un ministre, lui aussi, s'inquiétait récemment des positions du parti. Ce n'est pas de la violence conjugale, ce n'est pas de la violence contre quelqu'un, c'est de la violence contre soi-même. Ce même ministre s'interroge également sur le risque en effet d'engrenage et de chasse aux mauvaises pratiques. Risque bien pris en compte chez Renaissance, où on m'explique qu'on ne veut pas faire du LFI. Nous ne voulons pas être accusés de la moindre indulgence, comme pour l'affaire Quatennens, et nous l'assumons.
Alors, qu'en pensez-vous, Barbara ?
Ça n'a strictement rien à voir, l'affaire Quatennens et cette affaire. Ce monsieur est un drogué, donc c'est un malade. Il aurait peut-être fallu faire... D'ailleurs, apparemment, il a fait quelque chose, puisqu'apparemment, son élection l'a aidé à arrêter la drogue, d'après ce qu'il a l'air de dire, puisqu'il a quand même consommé jusqu'en juillet. Enfin, non, mais on est ferme avec nos valeurs. Mais parce que chez Renaissance, par exemple, ils n'ont pas d'alcoolique. Et je pense qu'à mon avis, il doit y avoir quelques députés, hommes ou femmes, un peu alcoolos sur les bords. Déjà, peut-être l'alcoolisme mondain, c'est de l'alcoolisme. Donc là, ils sont fermes avec leurs valeurs. Ils ont été fermes avec leurs valeurs quand ils ont laissé, dans le quinquennat, le mandat précédent, un de leurs députés qui avait tapé un autre député à coup de casque de moto. Il a fallu du temps avant qu'il l'expulse et qu'il le sorte Ah, mais ils étaient fermes avec leurs valeurs. Je suis désolée, ce monsieur l'avoue et dit qu'il s'en est sorti, il est malade. On nous explique d'ailleurs à longueur de temps, y compris les macroniens, que la drogue c'est quelque chose qui est une addiction, c'est une maladie, etc. Ce qui est vrai. Et là, ce pauvre bonhomme, allez hop et on le dégage. Enfin bon, moi je suis vraiment. Ils savent vraiment plus où ils habitent, ces pauvres macronistes. Hein.
C'est du puritanisme.
Je vais finir même par avoir pitié de ces
dires. Puritanisme, Bruno Poncet. On est aux États-Unis là.
Non mais moi ça me le rendrait pas sympathique qu'il ait avoué qu'il en ait pris. C'est pas le seul en France. Je dirai rien là-dessus personnellement, mais à un moment donné, moi, je trouve hors sol. Tu laisses Abad à l'Assemblée. Alors, présomption d'innocence, tout, mais Abad, c'est quand même beaucoup plus grave. Tu laisses, tu sais, celui là qui voulait ta place là comme rapporteur de la loi sur la SNCF, le député de Bordeaux qui avait.
Gironde.
Comment tu l'appelais?
Ouais, il était député de Gironde.
Ouais, Gironde.
Il est Benoît
Simon. Ouais, qui tapait sa femme, qui avait harcelé sa femme.
Il voulait ma place, ça, c'est vrai.
Ouais, il voulait vraiment. Bah oui,
il était quand même le pire des maîtres.
Il courait.
Condamné.
Oui, heureusement, mais il a mis du temps à être condamné. Donc, tu vois, les mecs, leur valeur, comme vient de dire Barbara, leur valeur à eux, c'est le mec qui a pris de la coke. Mais moi, je trouve que déjà, il l'avoue, c'est déjà pas mal, parce qu'il y en a beaucoup qui doivent en prendre, qui ne l'avouent pas, qui nous font des trucs de travers. Lui, il l'avoue, et en plus, le mec, enfin, moi, je sais pas pourquoi tu le vires pour ça. Enfin,
j'arrive pas à comprendre. Et les enfaites, c'est de la drogue, c'est conforme aux valeurs aussi. Je pose une question.
D'abord, vous connaissez ce député ?
Alors non, je le connais pas.
Emmanuel Pellerin.
Je connais pas parce qu'il est arrivé là. Hein.
Oui.
Mais non, il y a beaucoup de fantasmes autour de la cocaïne et de la politique. Moi, je peux dire qu'en 5 ans, j'ai jamais rien vu. Donc bon, lui, en l'occurrence, il a avoué en avoir pris. Mais
après, c'est un délit selon la loi. Ouais. Aussi. Il faut
après, je pense que
de la cocaïne est un délit.
Ouais, t'as
un an d'emprisonnement.
Violé aussi.
Jean-Baptiste. Je pense que dans son cas, effectivement, le puritanisme, il est excessif. Une mise en retrait, c'était déjà une sanction probablement.
Et s'il a arrêté, t'as même plus besoin de le mettre en retrait.
Suffisamment forte, effectivement, ça ouvre la porte après à peu près toutes les sanctions possibles pour des faits qui pourraient être à peu près similaires.
Et
pourquoi ils font ça, à mon avis? Alors, pour le coup, c'est assez simple. C'est effectivement pour ne pas être à la remorque de Quatennens, voilà. Sa mise en retrait des filles. Et donc, c'est un acte politique. Et d'ailleurs, c'est un acte politique décidé par le président du parti, donc séjourné. Pour certainement.
Mais est-ce que c'est pas les dérives aussi de la transparence à tout prix de la vie publique?
Je pense qu'un jour
c'était nécessaire parce qu'il y a eu des dérives, mais là on est dans des excès. Et même les jours, je suis désolé, mais Mediapart, là ça devient Voici. C'est-à-dire qu'on est dans la vie privée d'un député.
Je pense qu'on
est.
La vie privée des hommes politiques, elle leur appartient tant que ça n'influe pas sur les questions d'intérêt général. Parce qu'excusez-moi, mais quand la vie privée d'un homme ou d'une femme politique peut avoir des effets pour caser un copain, caser un ex, caser un ami.
Non, mais c'est pas la même chose.
Ça joue quand même.
Parce qu'en plus, tu tiens double discours.
forme. Non. Je dis simplement,
qu'il se comporte
pas
de façon
non plus
conforme
être complètement. Il faut respecter complètement la vie privée. Quand tu es une personne publique et que tu te fais élire et que tu décides de transférer, d'être le réceptacle de la souveraineté nationale et de la souveraineté de tes administrés, tu te dois d'être exemplaire. Ça veut dire aussi attention à ne pas avoir
l'homme parfait n'existe pas.
Je n'ai pas dit ça. Je dis simplement que la vie privée d'un homme politique, c'est pas exactement la vie privée d'un citoyen lambda.
Mais c'est pas bien de contrôler
la vie privée. Si sa vie privée vient influencer.
C'est pas bien, Bruno, de.
Mais c'est pas le question. Attends, que Barbara finisse.
Si la vie privée d'un homme ou d'une femme politique vient influer sur et vient heurter l'intérêt général, je suis désolée, là ça doit être révélé. En l'occurrence ici, le type consomme de la coke, c'est lui qui se rend malade, il est malade, il faut qu'il se fasse soigner. Quatennin, c'est pas pareil. Il tape sa femme, c'est pas la même chose. Abad, c'est pas la même chose.
Non, mais
il fait du mal à quelqu'un d'autre.
Il ne peut pas dire que la coke, c'est
banal. Non, je dis pas que c'est bien, mais on est en 2023, mais à quel moment, enfin, tu vois, on est en train de cristalliser sur ce mec-là. Le mec, en plus, il dit qu'il a arrêté en juillet quand il est devenu député, enfin, tu vois, ça l'a un peu aidé, certainement, je sais pas. Mais surtout, on est en train de faire un délire, enfin, prendre de la coke. C'est pas un crime,
mais c'est
peut-être
un délit.
Mais
c'est un délit.
Moi ce matin, je me suis senti flashé par un feu rouge. C'est certainement un délit aussi. C'est pas pour ça que derrière on va me faire virer dessus de rail ou de RMC.
Je suis sûr que si le ministre des Transports se faisait flasher à 170 sur l'autoroute, il serait viré du jour au lendemain.
Merci Monsieur Jérémy Trottin. Merci de cette discussion.
Si c'est avec Clément Beaune, il prend la voiture, il est en vélo.
Non, on y va pour le quiz des GG.
En direct du plateau 3 d'RMC. Les GG vous présentent le quiz des grandes gueules.
Salut Alain.
Monsieur Louis Gerbier, bien le bonjour.
Salut les
GG.
Donc
c'est toujours les retrouvailles.
Justine Bieber, là, disons,
Laissez Louis, il agonise depuis 10 jours.
Oui, il est malade, le
pauvre. On va le perdre.
Il est malade et il vient bosser.
On embauche des jeunes et qui sont malades.
Ils sont fragiles.
On dira un mot gentil.
Les jeunes.
On dira un mot gentil, puis tu parleras en dernier.
Des petites choses, mais attends, c'est jeune.
Pour Louis.
Ouais, je sais même plus de quoi on parle. Pour commencer, on part chez toi, tiens, chez Bruno.
T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul.
Bruno, tu le sais, donc tu réponds pas. Tu peux te boire un petit coup d'huile d'olive en attendant.
Ouais, attends,
avec la goutte d'huile qui fait déborder le feu qui cache la forêt.
Exactement.
Les syndicats de l'hôpital de Vierzon ont joué la carte de l'originalité. Qu'ont-ils fait pour protester contre la réforme des retraites?
Oui, ils se sont fait vieillir. En fait, ils ont affiché leur portrait, mais vieilli comme.
Exactement, vous allez pouvoir le voir sur RMC Story si vous êtes téléspectateur de notre émission. Si vous êtes auditeur, voilà, Olivier l'a très bien résumé. On voit donc des agents actuels de l'hôpital vieillis.
C'est bien joué, il faut faire la même chose
c'est
de grande gueule.
Voilà. Des créatifs.
Alors pour les animateurs, ça ne changera pas.
Oui, c'est vrai, ils sont déjà vieux.
Ouais, c'est-à-dire que
c'est jeune, mais il est vraiment méchant.
Ah, c'est pas mal.
Bah, marrant. Hein. Est-ce que tu peux le montrer?
Ouais, attends, je vais.
On va l'envoyer.
Papy Marshall.
On va faire les choses.
C'est-à-dire,
bien.
Regarde ses cheveux, ça change tout.
Pour ça, il finira sur CNews.
Vas-y, continue, Louis.
On en est là. Qu'affirment 17 chercheurs dans la revue Nature Astronomie?
Qui aurait peut-être une vie extraterrestre.
Exactement. Vous l'avez vu ça, il y a une vie extraterrestre. Mmh. En fait, ils auraient identifié 8 signaux intéressants dans le cadre d'un travail de recherche. Ils ajoutent les caractéristiques de ces signaux pourraient potentiellement impliquer des signes de technologie au-delà de la Terre et une vie intelligente extraterrestre.
Et moi, quand j'étais petit, j'avais vu un reportage avec un extraterrestre qui avait le doigt comme ça, c'était pas déjà acté.
Anne Hidalgo. Mais. Qui y croit surnaturel. Non, mais c'est évident qu'à l'échelle de l'univers, qui est en plus en expansion,
il n'y
a aucune probabilité statistique pour qu'on soit seul.
Bah oui, bien sûr.
Oui, donc,
il y a forcément de la vie ailleurs.
Moi, je pense qu'il faudra envoyer Renaissance coloniser Mars ou une autre planète.
Tout ce qui peut permettre à l'espèce humaine de ne pas se croire le centre de l'univers est bienvenu.
Moi, je suis sûr qu'il y a Philippe Martinez ailleurs.
Bien sûr.
En ce moment même est en grève.
Son frère jumeau qui aurait réussi lui sa grève.
Je crois. Il a réussi, Philippe Tueur, aujourd'hui, hors du monde.
Le Corneille, il a dit qu'on était seul au monde, pourtant.
Mais lui aussi, il est tout seul au monde.
Ouais, la rédaction du quiz des GG a mis tous ses meilleurs journalistes sur cette enquête, justement, et on a découvert un 9e signe d'une présence extraterrestre.
C'est vrai.
Et on est en mesure de vous affirmer qu'un extraterrestre a pris possession du corps de Barbara et l'a transformé en macroniste convaincu. On va l'écouter. On va écouter Barbara réagir à la réforme des retraites de Macron. C'est flippant.
Cette réforme, elle est indispensable quand on regarde la nécessité que nous avons collectivement de préserver et sauver notre système de retraite par répartition.
Merci Manu.
Bah alors,
qu'est-ce qui se passe?
Mais j'ai dit ça à qui?
C'était dit merci Manu.
Ah oui, mais ça devait être de l'ironie.
Non, tout à l'heure l'auditeur s'appelait Manu. Mais alors attendez, parce que ça fait vraiment peur cette affaire, parce qu'après on l'a surprise en train d'écouter un discours du président sur la chasse.
Je pense qu'honnêtement, on a beaucoup mieux à faire qu'aller chercher les gens sur toutes les chasses traditionnelles qui existent. Un, ça fait partie en effet du patrimoine, ça fait partie de l'art de vivre.
Merci Manu. Ouais, vous avez vu qu'ils sont à côté. Alors, Willy Schren, bon. Thierry Coste, j'invite tout le monde à lire un excellent.
On n'était pas là pour partir.
Non, mais j'invite tout le monde à lire un excellent article de Marianne parce qu'il y a des mails. Il y a des mails de Thierry Coste qui ont été révélés. Le mec dit carrément, oui, on est tellement content. Moi, je suis le conseiller officieux de Macron et on va continuer comme ça avec nos stratégies machiavéliques. Le mec, il a pas peur, quoi. Donc là, quand je dis qu'on a l'exécutif le plus pro-chasse, Schren et Thierry Coste. Bon, ça y est, Olivier s'en va.
Ciao.
Allez, continue, vas-y. Mais non, dès que tu dis chasse, tu sais que c'est pavlovien, quoi. Cling, ça se déclenche.
Rassurez-vous, tout est rentré dans l'ordre moins de 10 minutes plus tard.
Ah bon? Enfin, je veux dire, à chaque fois qu'ils sortent un truc, c'est une boulette. Alors, quand c'est Paris-Esther, c'est Borne qui fait genre droit dans mes bottes. Moi, j'ai adoré Ruffin ce matin. Il a dit
oui, Borne,
elle est droite dans ses bottes, mais elle va pas tarder à trembler des guiboles. Moi, je trouve que là, voilà, il a tout dit, Ruffin.
C'est du bon. Audiard.
Ouais, finalement, l'alien est ressorti. Tout va bien.
Que veux-tu hein. Tout on se refait rentré. Pas. Non. Tout est rentré dans l'ordre.
On se refait pas. T'as vu, c'est bien. Le tuy mot chasse, paf.
Non, je m'en vais.
Ça se déclenche. Dans un instant, le à vous de choisir. Deux sujets de discussion qu'on vous propose sur notre site internet rmc.fr. De quoi voulez-vous que l'on parle ensemble au 32-16? Des carburants. On est de nouveau sur la barre des 2 euros le litre. Ou est-ce que vous voulez qu'on parle des lycéens qui veulent manifester pour leur papa et leur maman? Est-ce que vous les comprenez? Eh bien, vous voulez qu'on parle, d'après ce qu'on me dit, là, la tendance, c'est qu'on parle des lycéens qui veulent manifester pour leur père et leur mère, qu'ils voient se tuer et trimer au boulot.
Ou alors les 3 heures de philo cet après-midi, peut-être aussi, je sais pas.
Et tout à l'heure, à 11h20, on a un GG 7 et match. Moins produire, moins consommer, moins travailler pour sauver la planète. Moins produire, moins consommer, moins travailler, c'est bon pour la planète, pour Barbara et Bruno, contre Jean-Baptiste et Olivier. Et vous venez l'arbitrer au 32-16.
T'as vu Alain Labiège, c'est quand même la classe.
La guerre.
Mais ça, c'est Jean-Baptiste quand il était ministre.
Oui, c'est Jean-Baptiste avec une cravate.
Oh là là, le montage. Regarde, c'était beau, c'était
mignon. Mais Olivier, ils ont pris une photo.
En fait, c'est dommage parce qu'ils avaient un beau gosse dans ce gouvernement, ils ne l'ont pas gardé.
Maintenant, il met des pulls rafistolés.
Quand tu prenais de la. Quand il prenait de la.
La cocaïne.
Oh, plaisante.
Hier, c'était Anaïs. Aujourd'hui, il y a un problème avec la cocaïne en ce moment.
Allez, à tout de suite avec les GG, avec les grandes gueules.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules.